France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à un élément indispensable à la musique, mais qui peut aussi en être sa négation, le silence. Le silence que choisissent ou subissent les compositeurs, soit parce qu'ils sont en panne d'inspiration ou alors parce qu'ils estiment n'avoir plus rien à dire. L'attitude des compositeurs face au silence est l'objet de l'essai original de Laurent Villarem, mon invité, qui a parcouru l'histoire de la musique de Monteverdi à Gorecki en passant par Debussy, Greff ou Polnareff. Les silencieux, les compositeurs à l'épreuve du silence de Laurent Villarem aux éditions Edam Musicae.
Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit, il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté, et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise au marquis. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise, et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard. Le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
Jacques Brel et Marquise, 1977. Bonjour Laurent Villarem.
Bonjour.
Vous êtes journaliste musical et donc auteur de cet essai, Les Silencieux, les compositeurs à l'épreuve du silence. Et c'est par Jacques Brel et cet album, Les Marquises, que s'ouvre votre livre. Là, c'est vraiment l'archétype de l'artiste qui, à un moment, décide de s'arrêter et puis de revenir un peu plus tard pour justement ce dernier album, qui sera vraiment son dernier puisqu'il meurt l'année suivante, en 1978.
Oui, parce qu'il arrête le chant à l'Olympia dans un célèbre concert en 66. Et après, il décide de devenir metteur en scène de cinéma. D'abord acteur. Et
ça n'a pas trop marché. En tout cas, metteur en scène de cinéma, ça n'a pas trop marché.
Non, je pense que Jacques Brel, c'est une sorte de fuite et de renoncement dans sa vie. Par exemple, on raconte qu'après l'échec de son deuxième film, Le Far West, il reste prostré dans un hôtel à Deauville. Et il décide de tout arrêter. Et après, il devient explorateur. Et là aussi, il va abandonner son bateau, qui va rester échoué contre un récif de corail aux Fidji. Et on aurait pu penser qu'il finisse sa vie aux Marquises calmement avec sa femme qui s'appelle Madly.
Ouais.
Et finalement, non, il décide de revenir en France en 77 sans que personne le sache et pour enregistrer cet album avec cette chanson qui est sublime.
Oui, ouais, exactement. Ouais. Et pour repartir tout de suite après.
Et après, voilà, il avait pas de promotion, il avait une tumeur de la taille d'un pamplemousse apparemment. Il est mort juste après.
Et alors donc, c'est cet exemple comme artiste, d'un artiste qui décide. Donc, vous avez dit après à l'Olympia, mais donc après, vous enchaînez dans votre livre par d'autres compositeurs, on va dire, classiques, qui décident de s'arrêter, comme Sibelius, Rossini, Elgar. Est-ce que c'est un phénomène, justement, qui a frappé beaucoup de compositeurs? Parce que vous organisez hein, les différents modes d'arrêt dans votre livre. Ce choix, comme subitement, d'arrêter, soit momentanément ou définitivement, est-ce que c'est finalement un phénomène que l'on rencontre régulièrement dans l'histoire de la musique, Laurent Villarem?
Alors, dans le cas de Brel, on peut dire vraiment, il fait une dernière œuvre par rapport à, un peu pour préparer sa mort, ou peut-être pour triompher de la mort.
Ouais.
Donc, on peut penser aussi à Rossini, qui arrête l'opéra durant 30 ou 40 ans, et qui fait des petites piécettes avec des noms un peu saugrenus.
Ouais.
Et il finit à deux ou trois ans avant sa mort, il fait la petite messe solennelle qui n'a de petite que le nom. Et c'est un peu comme si on cherchait une dernière fois à combattre la mort et peut-être même y arriver.
Ouais.
Et on peut aussi penser à Olivier Greiff aussi, qui s'arrête de composer. Je sais que vous avez, il y a deux semaines, vous avez interrogé son frère.
Jean-Jacques, oui, en effet, oui, à l'occasion de l'apparition de son journal. Ouais.
Et Olivier Greiff s'est arrêté de composer pendant 10 ans et il est revenu à la fin de sa vie pour composer des œuvres extrêmement tourmentées. Et on peut se poser la question si c'est pas son propre Requiem qu'il a composé.
Ouais.
Donc il y a vraiment cette idée du compositeur qui à la fin de sa vie revient et pour une dernière fois montrer ce dont il est capable de faire.
Mais alors, il y a aussi l'exemple fameux au XXe siècle de Jean Sibelius avec son hypothétique 8e symphonie. Vous vous rappelez dans le livre, il dit oui, bien sûr, la symphonie avance et puis on n'a jamais rien vu et il s'est arrêté à la 7e.
Oui. Mais il y a peut-être une théorie. Moi, j'ai l'impression que pour Sibelius, il y a peut-être le fait qu'il y travaillait entre 1927 et 1930. Et ensuite, en 1931, il a composé une petite pièce pour orgue à la mémoire de son ami, c'est encore quelque chose de funèbre, Alexis Galen-Kallela, le peintre.
Le peintre, ouais.
Et beaucoup disent qu'il a éparpillé les thèmes de cette 8e symphonie dans cette petite pièce pour orgue qui dure 6 minutes et qu'ensuite il a plus jamais réussi à retrouver le fil et ni l'envie, ni... J'ai peut-être aussi une autre idée aussi, c'est peut-être que Sibelius aimait la mélancolie, peut-être. Peut-être, on sait qu'il était un peu dépressif et qu'il a peut-être trouvé plus de... Oh, peut-être que je dis une bêtise, hein. Il a trouvé peut-être plus de plaisir à être mélancolique que être dans le triomphe. Voilà.
Ouais. Mais donc, pour le cas de Sibelius, c'est quasiment un mutisme total jusqu'à la fin de sa vie, à part quelques petites pièces, quoi. Ouais.
Oui, on sait qu'il a jeté... Il a tout mis dans un panier à linge un soir d'hiver en 43, je crois, devant sa femme, et hop, il a tout jeté au feu. Et ouais. Sa femme, Aino, a dit que après cette auto-da-fé, on va dire,
oui, bah oui.
Il était devenu beaucoup plus joyeux et son humeur est redevenue normale.
Débarrassé de ce fardeau.
Voilà.
Thank you.
Julie Hassler, Béatrice Maillot-Philippe et Else Janssen est aidée d'un dispositif électronique informatique. C'était le début, la première partie de l'invitation au voyage de Pierre Charvet. Pierre Charvet, que les auditeurs de France Musique connaissent bien, évidemment, également en compositeur. Laurent Villarem, vous avez pu vous le raconter, d'ailleurs, dans votre livre, qui est créé la première personne. Hein, vous expliquez clairement, je suis allé voir un tel, j'ai discuté avec un tel, et vous racontez. Donc, vous êtes longuement entretenu avec Pierre Charvet, qui, compositeur de formation, s'est arrêté pendant assez quelques années. Et on peut très bien comprendre que pour un artiste, ça soit vécu comme une période, un moment assez douloureux. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que spontanément, il a accepté de parler de cette crise?
Oui, d'ailleurs, je le remercie beaucoup, parce que c'est pas toujours évident pour un artiste de dire, d'assumer ses difficultés. Mais je voulais absolument avoir une personne de notre temps, car c'est vrai qu'on peut chercher, le secret d'un De Falla, d'un Rossini ou d'un Sibelius, mais autant demander à des personnes encore et qui vivent ce problème, s'il en est un, silence.
Ouais.
Et dans le cas de Pierre Charvet, c'est vraiment une personne qui a eu, tout le monde on le connaît bien ici, c'est un personnage, il a avec son t-shirt noir et ses baskets blanches, on l'aime tous. Mais c'est vrai que derrière cet aspect solaire, on a du mal à imaginer qu'il ait des problèmes des difficultés de composition. Il a eu un début de carrière extrêmement impressionnant. Il a étudié aux États-Unis, il a enseigné, il est revenu en France et il a fait paraître, et ça faisait peut-être presque 8 ans qu'il n'a pas fait paraître de nouvelle œuvre. Et quand je l'appelle, il me dit quelque chose d'un peu, il me dit que mon appel tombe bien parce qu'il s'apprête à bazarder 2/3 de son catalogue. Donc, et après, quand on a poursuivi la conversation tous les deux, pour lui, il s'imagine qu'il a encore le temps. Il m'a cité l'exemple de Rameau qui écrit 50 opéras à plus de 50 ans.
Pas 50, mais effectivement, son premier opéra, effectivement, à 50 ans, fait.
Et il a toujours pensé c'était un compositeur qui avait besoin de maturation. Mais étrangement, c'était un compositeur extrêmement spécialisé et c'était un petit génie des informatiques. Et il m'a avoué que de nos jours, la génération actuelle l'avait dépassé, qu'il s'était, entre guillemets, laissé dépasser. Mais je pense que c'est peut-être une façon de se maintenir en vie, peut-être de ne pas composer. Peut-être qu'on revient finalement à Brel ou à Rossini, de peut-être, s'il se remet à composer, il s'affronte entre guillemets à sa mort peut-être, mais peut-être qu'il faudrait peut-être lui demander, parce qu'on peut le faire.
Et il y a d'autres compositeurs qui traversent votre livre, Laurent Villarem, des compositeurs d'aujourd'hui, qui eux aussi se sont arrêtés de composer définitivement ou momentanément. Comment est-ce que ça se passe quand est-ce que vous avez pu les contacter tous? Est-ce que tous ont accepté aussi facilement que Pierre Charvet d'en parler ou pas? J'ai pas l'impression. Hein.
Non. C'est pas forcément facile d'assumer. C'est vrai qu'en musique contemporaine, on a du mal à considérer que les compositeurs sont des êtres comme les autres. Il y a toujours cette image un peu mathématique, un peu une sorte de génie abstrait. Même dans la musique plus classique, si on pense à Bach, il a écrit 1000 œuvres, on a l'impression que la musique s'écoule de son corps, ouais. Alors que non, et peut-être ça le sujet du bouquin, c'est que les compositeurs, y compris contemporains, sont des êtres avec des failles, qui ont parfois envie d'arrêter et de changer de vie presque parfois.
Y los escribas.
De verdad quiere el Cristo, el Hijo de Dios bendito.
Pedro le iba siguiendo hasta que al patio llegó.
De verdad quiere el Cristo, el Hijo de Dios bendito.
Se sentó con los criados junto al fuego se quedó.
De verdad quiere el Cristo, el Hijo de Dios bendito.
Toda la junta buscaba prueba para la condena.
Porque el pobre
quiere el Cristo, el Hijo de Dios bendito.
Y no encontraba.
un extrait de la Passion selon Saint-Marc d'Osvaldo Golijov, l'Orchestre national des jeunes Simon Bolivar, dirigé par Maria Guinand. Je ne sais pas si je prononce bien le nom du chef d'orchestre. Laurent Villarem, alors Osvaldo Golijov, ce compositeur argentin né en 1960, occupe ses belles places dans votre livre, parce que c'est une sorte de cas assez particulier. Alors, rappelez-nous ce qui s'est passé. On se souvient qu'effectivement, au début des années 2000, on a vu son nom apparaître. Deutsche Grammophon a enregistré plusieurs de ses œuvres, également son opéra également. Il était très demandé, il y a eu des projets avec le Met, et puis patatras, plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé alors?
Pour moi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un peu cherché un compositeur qui soit vraiment passé à quelque chose d'autre. Ouais. Parce que souvent, la musique revient toujours. Et pour le moment, il ne donne aucun signe de vie musicale. Et toute proportion gardée, ça m'a fait penser à Rimbaud, le compositeur le poète qui devient. Et dans le cas de Golijov, on a très peu de nouvelles et il semblerait qu'il n'ait plus envie de composer.
D'accord.
J'ai interrogé, c'était par téléphone, Katia et Marielle Labec, qui avaient créé son concerto pour deux pianos.
Ouais.
Et je leur ai parlé de Golijov et elle m'avait dit on ne comprend pas. Il est très heureux en couple, mais on ne sait pas pourquoi.
Il a arrêté la musique.
On ne sait toujours pas.
D'accord. Bah, parce que donc, il a composé la musique de film, notamment. Pour Coppola, mais il a été quand même, vous le rappelez, il y a eu quand même des événements un peu tourmentés quand même dans son existence.
Il y a eu un souci, oui.
Voilà, oui.
il a été pris en flagrant délit de pas de plagiat, mais en tout cas de collaboration très très proche avec un de ses collaborateurs. Il avait une commande, c'était en 2009-2010, d'une pièce de 10 minutes. Et c'était commandé par 35 orchestres joués dans 10 États.
Aux États-Unis, oui.
Et il s'est avéré que la pièce était juste qu'une orchestration d'une pièce d'un de ses collaborateurs.
Ça. Voilà. Ouais. Donc ça fait gros scandale.
Ça fait scandale. Tous les journaux américains s'en sont mêlés.
Ouais.
Et éventuellement, ça pose peut-être la question que parmi les compositeurs contemporains, pour vivre, il faut produire beaucoup. C'est seulement ceux qui produisent beaucoup qui continuent la composition. Et peut-être que Golijov a croulé sous les commandes.
Il a craqué.
Et depuis, peut-être qu'il prend un repos bien mérité, ouais. Peut-être, espérons-le.
Ouais. Ouais. Mais du coup, ça a entraîné quand même... Et en plus, il y avait beaucoup de commandes en retard. Il y avait un concerto pour violon, pour Cavacos, je crois,
absolument,
qui était prévu, dont la création était reportée et du coup, en fait, annulée.
Et ce qui est fascinant, c'est que finalement, ça ressemble à la 8e symphonie de Sibelius.
C'est ça, oui.
Ouais. On repousse, le concerto pour violon a été repoussé en 2012, puis en 2013, puis en 2016. Et le cas unique, c'est que le Met a annulé en 2016 la commande. C'était une Iphigénie encore.
Ouais.
La commande était passée en 2006 au Met, et le Met, fait unique de son histoire, a brisé la commande en 2016. Donc, il est libéré de le Met.
Mais suite à cette affaire de, entre guillemets, plagiat alors?
Ah, j'ai l'impression que
retard,
non, c'est parce qu'il savait, il savait...
Que la partie n'arrivera jamais à temps.
Jamais,
oui. D'accord. Laurent Villarem, je l'ai dit en introduction, vous présentez plusieurs types de silencieux. Il y a aussi les compositeurs qui ont du mal à terminer, vous citez, ou qui abandonnent en cours, plus exactement, vous citez notamment Debussy avec les exemples fameux de la chute de la Maison Huchère et puis d'autres partitions. Il y a d'autres compositeurs comme ça qui laissent en plan dans les tiroirs des partitions inachevées.
Oui, je pense que l'exemple le plus émouvant, ce serait l'Atlantide de Manuel de Falla.
Ouais.
Il a passé presque 20 ans de sa vie sur l'Atlantide. C'est une grande cantate au texte un peu compliqué d'ailleurs.
Ouais, ouais,
il a écrit le prologue, il l'a même orchestré, c'est 10 minutes de musique absolument impressionnante. Et après, on a l'impression qu'il a perdu le fil. Et la chose intéressante, c'est que quand on regarde les partitions, il ne finit jamais une scène. Il met ou il rature, il tient jamais à finir une scène ni à faire des transitions entre les scènes. Comme s'il préférait que ça reste de l'ordre de l'esquisse plutôt qu'une œuvre finie. Et...
Comme s'il avait peur d'achever son œuvre, finalement.
Absolument, on dirait.
Ah oui.
Absolument.
Ah oui. Et d'autres. Et du coup, cette Atlantide a été complétée un peu plus tard par Alfter, c'est ça, hein?
Oui. Et la chose étrange, c'est que personne n'avait vu la partition du vivant de Falla.
Ouais.
Et c'est lorsqu'il a appris la mort de Paul Dukas, qui est lui-même un autre silencieux, Dukas avait brûlé toutes ses partitions. Et quand de Falla a appris ça, il a décidé de garder, si bien qu'on a pu conserver il a été terrifié à l'idée que toutes ses, même ses esquisses inachevées disparaissent avec lui.
Arkady Volodos a interprété un extrait de la Musica Calada de Federico Mompou, ce compositeur né en 1893 et mort en 1987, molto lento et tranquillo, indique la partition. Laurent Villarem, la musique de Mompou, en tout cas ce recueil pour piano, est réputée pour son économie de moyens, on va dire. On a l'impression que le compositeur a enlevé le maximum de notes et ne reste sur la partition qu'une espèce de squelette. Est-ce que c'est un phénomène fréquent, là aussi, de chez certains compositeurs, de raturer, de délaguer au maximum pour ne conserver que l'essentiel et s'approcher d'une musique, j'ai envie de dire, silencieuse? On pense aussi peut-être à la musique de Chiarino, par exemple.
Oui, ou à Nono aussi.
Exactement, oui.
Mais après, peut-être qu'on peut différencier une attitude occidentale et une attitude orientale.
Oui.
C'est vrai que Nono, on peut penser que c'est toujours dans la disparition du son.
Mm-hmm.
C'est un peu comme s'il y avait une angoisse, une angoisse funèbre et presque historique. Alors que pour un compositeur comme Toru Takemitsu,
le japonais.
Il y a l'idée du ma. Je sais pas, je prononce pas très bien le.
je pourrais pas vous corriger.
Non, en tout cas, c'est le ma.
Ah ouais.
C'est le silence éloquent. C'est-à-dire que la musique vient du silence, puis y retourne. La dernière pièce, d'ailleurs, de Takemitsu, ce n'est pas un requiem. C'est une pièce pour flûte qui s'appelle R, AIR.
Ah ouais.
Et c'est-à-dire que le son vient, puis se volatilise dans l'atmosphère, un peu comme la présence humaine.
Mmh. Donc il y a chez ces compositeurs cette recherche paradoxale d'une musique qui évoquerait le silence, alors.
Peut-être que c'est de la musique, c'est simplement une idée de notre passage sur Terre, peut-être.
Mmh.
Il n'y a rien, ou il y a je ne sais pas, selon les croyances.
Ouais, ouais.
Il y a la musique, et puis il y a le silence où on retourne.
Et dans les cas, dans les autres cas de compositeurs qui ont choisi ou subi, plus exactement le silence, vous évoquez Laurent Villarem, là, du coup, non pas des compositeurs, mais des compositrices qui ont, pour différentes raisons, décidé d'arrêter. On pense notamment à Alma Mahler, qui dès lors qu'elle a épousé Gustav Mahler, a arrêté de composer.
Parce qu'il n'y avait qu'un seul génie à la maison.
Voilà, c'était pas possible d'avoir
Robert Schumann, qui était très compréhensif, a un petit peu brisé la carrière de Clara.
Mm-hmm.
Peut-être aussi, il y a l'exemple de Nanner, la sœur de Mozart, dont le père n'a pas voulu qu'il y ait aussi deux génies dans la fratrie.
Oui, parce que c'était aussi un enfant prodige.
Oh, absolument,
hein. Ouais.
Et de nos jours, c'est vrai que c'est important d'avoir des rôles. C'est vrai que nous, Philippe, vous êtes un autre comme moi, et on a plein de rôles, on a plein d'inspirations. C'est vrai que il y a que ça. Et peut-être que pour une femme, c'est Nina Simone, peut-être. Il est important d'avoir des rôles qui vous inspirent. C'est important qu'il y ait des femmes comme Nadia Boulanger, mais il n'y en a pas assez.
Mmh.
Et il faudrait, je crois que c'est Béatrice Thiriet sur France Musique qui disait qu'il fallait que chaque femme, chaque compositrice endosse la mémoire d'une compositrice.
Très bien, merci beaucoup Laurent Villarem. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les Silencieux, les compositeurs à l'épreuve du silence, publié aux éditions Edam Musicae. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, la technique Philippe Mercher, attaché de production Annick Aumier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, excellente journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.